affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie, merci de votre fidélité. Le 8 juin dernier, une nouvelle fondation a été créée au sein de l'Institut de France, la Fondation Anthropologie, Archéologie, Biologie, qui a pour objet de contribuer au rayonnement historique et scientifique des chercheurs français par la réalisation d'études interdisciplinaires convoquant ces différentes disciplines au service de la connaissance historique. C'est pour nous l'occasion de faire plus ample connaissance avec son fondateur, Philippe Charlier, pour qu'il nous en dise un peu plus sur les projets de cette fondation et aussi sur son propre parcours. Mais peut-être connaissez-vous déjà Philippe Charlier. En effet, ce médecin légiste de formation a mis en avant cette discipline en pratiquant des autopsies sur des morts célèbres tels que Lucie, Agnès Sorel, Saint-Louis ou Descartes, et participé à la reconstitution des visages d'Henri IV et de Robespierre, ce qui lui a valu le joli surnom de médecin des morts. Or, comme nous le verrons, cette familiarité avec les morts d'autrefois résulte de nouvelles pratiques scientifiques résolument multidisciplinaires qu'il pratique lui-même avec assiduité, car en plus d'être médecin, Philippe Charlier est également archéologue et anthropologue. C'est d'ailleurs à cette dernière discipline qu'est consacré son dernier ouvrage, « Rituel », paru aux éditions du CERF et dans lequel il décrypte, pour le grand public, des pratiques rituelles des cinq continents. Bonjour Philippe Charlier, merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, merci à vous.
Pour commencer, pourriez-vous nous décrire plus avant cette fondation, son objet et sa genèse ?
C'est une fondation qui est jeune. Elle a pour but de mélanger les sciences fondamentales et les sciences humaines autour d'un but commun qui est celui de, si on peut dire, faire parler les morts, principalement les morts anciens, les morts historiques. Beaucoup de personnages pour lesquels on a des données biographiques. On a un nom, on a un portrait, on a des dossiers médicaux, parfois des photographies, des radiographies, mais des personnages qui ont fait l'histoire. Eh bien, en utilisant les compétences de la médecine, notamment la médecine légale, mais également la génétique, la microbiologie et aussi l'histoire, l'archéologie, l'histoire de l'art, et bien essayer de mieux comprendre ces personnages. Au-delà de ces figures historiques, ce qu'on pourrait appeler de la biomédecine, et bien on s'intéresse aussi à l'évolution des maladies, comment une maladie naît, vit, interagit avec d'autres maladies et éventuellement meurt ou disparaît. Et on s'intéresse enfin à tous les rituels magiques et religieux autour de la mort et de la maladie. Normal, on travaille sur des tombes, on travaille sur des momies, sur des squelettes, sur des reliques, sur des fragments de textile ou de papier tachés du sang de tel ou tel personnage historique. Donc tout ceci s'accompagne de rituels et on comprend mieux, du coup, l'interpénétration entre des sciences fondamentales, qu'on appelle classiquement des sciences dures, j'aime pas trop ce terme-là, et puis des sciences humaines, que d'autres appellent des sciences molles, et comme vous pouvez le comprendre, je n'aime pas non plus ce terme-ci.
Très bien, donc je n'avais pas perçu que c'était à tel point dans les deux sens, parce que initialement, notre premier mouvement est de croire que c'est la médecine qui vient au secours de l'histoire pour démystifier des récits qui seraient mensongers. En réalité, je découvre que c'est également l'histoire qui vient au secours de la médecine.
Oh, je ne sais pas si l'un a besoin qu'on vole au secours de l'autre, mais je pense surtout qu'il s'agit de... Il n'y a pas de lacune à combler, vous voyez. C'est surtout un intérêt, une nécessité tout simplement de travailler l'un avec l'autre, une émulation, si vous permettez ce terme. L'un et l'autre s'enrichissent mutuellement. Pour mieux comprendre un fait historique, une épidémie à un certain moment, une disparition subite, pour mieux expliquer un retournement de tendance sur un profil psychologique de tel ou tel personnage historique, eh bien là, la médecine peut avoir un intérêt, la toxicologie aussi, ou une étude parasitologique, etc. Donc, de la même façon, la médecine, l'évolution des maladies, ce que certains appellent la médecine évolutive, eh bien, a besoin également de données historiques, anthropologiques, archéologiques, de tous ces différents champs de l'histoire, mais même aussi d'études paléographiques, parce qu'on travaille sur des inscriptions ou sur des textes anciens qui décrivent une maladie particulière qui a touché un individu ou une population. Si on veut avoir une connaissance la plus exacte possible de ce qui se passait dans les populations du passé, qu'il s'agisse d'une population totalement anonyme ou qu'il s'agisse d'un individu en particulier, il faut vraiment que les sciences fondamentales et que les sciences humaines travaillent ensemble, sans aucun niveau hiérarchique, juste la main dans la main.
Vous avez parlé de pathographie, vos ouvrages contiennent également un autre terme savant, paléopathologie. Est-ce que vous pouvez nous distinguer les deux disciplines pour que nous cernions mieux le champ ?
Bien sûr, la paléopathologie, c'est de la médecine légale appliquée à des squelettes ou des momies, en tout cas des restes humains anciens. Tout simplement. Donc c'est une sorte de médecin légiste qui interviendrait, évidemment, par définition, après la mort, mais là, très très longtemps après la mort. Par exemple, identifier la mandibule de Hitler à Moscou, c'est de la paléopathologie. Travailler sur une nécropole de 100 personnes d'époque mérovingienne, c'est de la paléopathologie. La pathographie, c'est lorsqu'on fait de la paléopathologie sur un personnage pour lequel on a des données, des notions biographiques. On ne travaille pas à l'aveugle. Et donc c'est ça qui fait toute la différence entre cette nécropole de 100 mérovingiens, c'est de la paléopathologie, mais si l'un d'entre eux a une inscription funéraire, si l'un d'entre eux a une bague avec son nom, ou si pour une raison X ou Y on peut identifier nominativement l'un de ces individus, dans ce cas-là on franchit le cap de la pathographie, on n'est plus à l'aveugle. La pathographie a un intérêt, c'est qu'elle permet de dire si l'histoire correspond exactement à la réalité scientifique. Il faut sans arrêt réécrire l'histoire, non pas pour la gommer, mais pour approcher au fur et à mesure de la réalité. Travailler par exemple sur une fosse commune de victimes de la peste d'Athènes permet de mieux comprendre certains faits historiques décrits par Thucydide dans la guerre du Péloponnèse. C'est un exemple.
Très bien. Quand ces disciplines sont-elles nées ? Parce qu'elles sont peu connues du grand public finalement. Elles sont récentes ou... Alors, quelle est leur genèse en quelque sorte ? J'imagine que l'idée était dans l'air et qu'elle se formalise de façon plus scientifique.
L'idée était dans l'air, quelques études sporadiques ont été réalisées dès la fin du 19e siècle, début du 20e siècle. On commence à porter un regard médical sur quelques momies égyptiennes, notamment de Pharaon. Mais la paléopathologie en elle-même n'existe que depuis, on va dire, une vingtaine, une trentaine d'années. En tant que discipline stricto sensu, quantifié, bien qualifié avec ses codes, ses protocoles d'études, d'analyses, de publications. La pathographie naît à peu près dans la même période, une vingtaine d'années à peu près. Il n'y a pas encore de chaire de paléopathologie quelque part, il n'y a pas encore d'enseignement spécifique de paléopathologie, même si quelques diplômes d'université existent, mais c'est une spécialité qui commence à prendre tout son intérêt et qui nécessitait en tout cas qu'une fondation s'y rattache à l'Institut de France pour essayer non seulement d'essayer de la pérenniser, mais également de dégager suffisamment de moyens financiers et techniques pour lui permettre de réaliser des études que sans cela, elle n'aurait pas pu réaliser.
Alors, très bien, venons-en justement à cette fondation. J'ai donné son objet, mais il était, comme souvent, les objets un peu vagues. Quels sont les projets ? Voilà, au-delà de l'objet général, quels sont les projets à moyen et long terme ?
Plusieurs études vont intervenir qui vont être placées sous le patronage et avec l'aide de cette fondation, notamment l'étude des chœurs de Louis XIII et Louis XIV qui sont conservés à la basilique royale de Saint-Denis. Ces deux chœurs, il y a une tradition qui les entoure. Lorsque Louis XIII et Louis XIV meurent, ils font le don de leur chœur embaumé au général des jésuites. Ils sont donc placés dans ce qu'on peut appeler éventuellement des reliquaires, des cardiotrophes en réalité, donc des porteurs de chœurs, dans l'église Saint-Paul-Saint-Louis, dans le Marais. Et à la Révolution française, ces reliquaires vont être profanés. Il paraît à ce moment-là, c'est là que l'histoire va être vérifiée ou pas, qu'ils sont vendus à deux peintres, Pau de Saint-Martin et Martin de Rolling, qui vont réaliser tous les deux peintures en râpant ce cœur, en le délayant un peu avec de l'huile de lin. L'un va réaliser une vue de camp et l'autre un intérieur de cuisine. Honnêtement, c'est pas des très belles peintures. Alors, il y en a une qui est au musée de Pontoise, l'autre qui est au musée du Louvre, quand même. Mais bon, c'est pas majestueux comme peinture, même si c'est peint en partie, paraît-il, avec des cœurs de rois de France. Donc, le reste des deux chœurs, tout n'a pas été utilisé, et lors de la restauration, sous Louis XVIII, en 1817, eh bien, ces peintres vont rendre ce qui reste des chœurs au roi de France, puisque la restauration est en cours. Et ces chœurs vont ensuite rejoindre la basilique Saint-Denis, ce n'est pas leur emplacement initial, mais au moins ils vont là rejoindre quelques autres souverains qui ont été remis dans la crypte. Donc notre étude va avoir pour but de vérifier d'abord si cette histoire est réelle ou pas. Si elle n'est pas vraie, c'est une très jolie fable, un très beau roman, mais voilà, certains romans ne sont pas fondés sur une réalité. Et puis, si jamais ces chœurs sont authentiques, ça sera l'occasion de mieux connaître l'état de santé de Louis XIII, de Louis XIV. Savoir, par exemple, si Louis XIV était véritablement diabétique, quelles ont pu être les complications au niveau de son cœur, notamment au niveau des coronaires et des valves cardiaques. Pareil pour Louis XIII, est-ce que Louis XIII avait une tuberculose intestinale ou une maladie de Crohn, c'est-à-dire une maladie inflammatoire des intestins. Et puis, mieux connaître aussi les circonstances exactes de la mort et tout le procédé d'embaumement de ces deux organes, qui sont des organes particulièrement symboliques. Donc ça, c'est une étude qui va avoir lieu dans le courant de cette année 2020, avec des résultats qui sont attendus pour 2021. Une autre grande étude qui va avoir lieu, sous l'impulsion et avec le soutien et l'appui de la Fondation Anthropologie, Archéologie, Biologie, c'est l'étude des quelques restes de Napoléon. On va commémorer en 2021 les 200 ans de la mort de Napoléon, et une mission archéologique a été acceptée par le consul honoraire de France sur l'île de Sainte-Hélène pour aller fouiller les latrines de la demeure de Longwood, donc des latrines qui sont créées au moment de l'arrivée de Napoléon, qui va séjourner 6 ans dans l'île, puis finir par mourir. Et donc ces latrines correspondent exactement à la période d'occupation des lieux par Napoléon, avec une relative spécificité des dépôts vis-à-vis de Napoléon. Ça va s'accompagner également d'une réouverture du tombeau de Napoléon, non pas aux Invalides bien sûr, mais sur l'île de Sainte-Hélène, pour obtenir une meilleure stratigraphie de ce qu'on a appelé le transfert des cendres, la récupération du cercueil de l'empereur. Peut-être des objets votifs ont été déposés à ce moment-ci, que nous allons alors découvrir. Et puis également un travail sur beaucoup d'échantillons, par exemple des objets personnels de l'empereur, des objets personnels de Joséphine également, et puis également des échantillons de papier peint originel dans le salon et dans la chambre de l'empereur pour savoir si oui ou non une intoxication chronique, en tout cas une exposition à l'arsenic, a eu lieu ou si à nouveau c'est une légende transmise de génération en génération, puisque c'est quand même une grande habitude dans l'histoire mondiale, c'est qu'un grand personnage historique ne peut pas mourir de mort naturelle. On imagine toujours que c'est une mort rocambolesque ou autre chose. Moi, en tant que médecin légiste, je peux vous dire que beaucoup de morts sont beaucoup plus naturelles qu'artificielles, si on peut dire, ou avec l'action d'un tiers, pour prendre une expression quasiment juridique. Eh bien, on va voir si ceci s'applique également pour ces trois personnages historiques, Louis XIII, Louis XIV et Napoléon.
Ça nous renvoie à certaines études que vous avez déjà accomplies, je pense notamment à celle sur Saint-Louis et également sur Agnès Sorel. J'aimerais bien que vous nous la racontiez. Par laquelle voulez-vous commencer ?
Peut-être Agnès Sorel, puisque c'est une des études les plus anciennes que notre groupement de chercheurs a menée. C'était dans les années 2005 à peu près. Agnès Sorel, c'est la favorite officielle du roi de France Charles VII. Elle est née en 1422 et on ignorait exactement les circonstances de son décès. Elle est morte jeune, hein, en 1450, à 28 ans simplement, en peu de temps après avoir donné naissance à son quatrième et dernier enfant. Elle meurt de ce qu'on a appelé à l'époque, l'historien Jean Chartier nous parle d'un flux de ventre. Un flux de ventre, c'est une perte de matière, quelle qu'elle soit, sanglante, hydrique, peu importe, par un des orifices inférieurs. Je ne vous fais pas le dessin, mais chez une femme, il y en a un de plus que chez l'homme. Et voilà, on voulait savoir exactement si c'était un problème qui pouvait être urinaire, qui pouvait être intestinal ou gynécologique. Et puis surtout, à la demande du conseil général, à l'époque on disait général, pas départemental, d'Indre-et-Loire et de la ville de Loches, il fallait déplacer le gisant. Et sous le gisant, magnifique objet d'art en marbre blanc avec les traits de la défunte dessus, vraiment un magnifique objet. Et bien en dessous se trouvait l'urne funéraire, c'est-à-dire une sépulture secondaire d'Agnès Sorel, avec les ossements, mais en fait pas exactement les ossements. Il y avait des ossements avec beaucoup de matière organique, notamment beaucoup de résidus d'embaumement, et puis également des poils, des cheveux, des résidus intestinaux qui étaient encore présents, et puis également des fragments de peau, etc. Et puis des résidus aussi de son ancien cercueil qui était en cèdre, en chêne et en plomb. Donc c'est une étude interdisciplinaire qui a eu lieu en confrontant, comme toujours, les textes anciens, les sources comme on dit, dont certaines étaient fiables, dont certaines n'étaient pas fiables, et puis également les résidus archéologiques ou anthropologiques. Et on s'est rendu compte que la pauvre Agnès Sorel était morte de mort non naturelle, pour le coup. Elle est morte intoxiquée au mercure, elle avait énormément de vers intestinaux, des vers qu'on appelle ascaris, et elle était traitée depuis longtemps, depuis au moins 3 ans, ce qu'elle a montré l'étude des cheveux, l'étude toxicologique, en utilisant du mercure à une dose à peu près thérapeutique. Mais dans les 48-72 heures qui ont précédé son décès, c'est à nouveau l'étude toxicologique, mais cette fois-ci du bulbe des cheveux et des poils qui a permis de le montrer, eh bien, elle a ingurgité quasiment 10 000 à 100 000 fois la dose thérapeutique. C'est-à-dire une dose vraiment massive qui a provoqué une mort en 48-72 heures, on appelle ça une intoxication aiguë, et ceci était associé également à une prise de fougère mâle, un certain type de fougère pharmaceutique, dont le but était de tuer tout simplement les parasites. Sauf que là, ça a tué non seulement les parasites, mais également la pauvre Agnès Sorel, qui en 48-72 heures est morte. On a également retrouvé les restes de son quatrième et dernier enfant, qui était un enfant prématuré, associé à ceux de sa maman. Il ne restait que 2 vertèbres et un tout petit fragment de crâne. Il avait 7 mois in utero. Là, c'est une confrontation avec les données dans ce qu'on appelle la fœtopathologie, l'étude des enfants morts-nés qu'on fait généralement en microscopie dans des services médicaux, qui nous a permis d'être sûrs de son âge. Et malheureusement, cet enfant n'a pas survécu. Et il a été enterré, selon l'usage, avec sa maman. Et du coup, s'est retrouvé également dans cette sépulture secondaire. Voici pour le dossier d'Agnès Sorel. Alors nous, on donne une cause de mort. Maintenant, les historiens continuent toujours de travailler sur ce dossier pour essayer de mieux savoir si c'est un suicide, si c'est une intoxication, on va dire, criminelle. Et donc, troisième possibilité, si c'est une erreur de dosage. Et dans ce cas-là, c'est un accident thérapeutique lié à l'apothicaire, au médecin ou au préparateur. Saint-Louis est un autre patient dont nous nous sommes occupés. Avant d'être Saint-Louis, c'est d'abord Louis IX, et la tradition rapporte qu'il meurt en 1270 lors de la 8e croisade, qu'il mène d'abord au Maghreb. Il meurt à Tunis, non pas d'une peste, comme cela a été souvent colporté, mais d'une pestilence, c'est-à-dire une maladie de nature épidémique. Alors, à ce moment-là, on réalise une triple funérailles pour le roi de France, c'est-à-dire que les viscères sont déposés à un endroit, le cœur également à un autre endroit, et les ossements secs sont déposés à un troisième endroit, en l'occurrence à la basilique royale de Saint-Denis. Les viscères sont à Monreale, à côté de Palerme, en Sicile, et le cœur, lui, on ne sait pas très bien, un cœur, potentiellement celui de Saint-Louis, aurait été retrouvé dans la Sainte-Chapelle, à Paris, au XIXe siècle, mais comme il est dans un reliquaire, un contenant qui est anépigraphe, qui est sans inscription, eh bien, un doute persiste toujours sur l'identité de ce propriétaire du cœur. Notre travail a été d'abord de recueillir le maximum d'informations sur toutes ces reliques, parce que c'était vraiment un roi qui est éparpillé, un roi dispersé, si on peut dire, et donc nous avons travaillé sur un reliquaire d'un bras, dont l'examen radiographique a d'ailleurs montré, c'est le bras de Prud'homas dans le Lot, et l'examen scanographique de ce bras a montré qu'en fait c'était pas un os, ni un numérus, ni un radius ou un cubitus, mais que c'était en fait un fémur gauche, ce qui ne veut pas dire pour autant que cet os n'est pas authentique, c'est peut-être tout simplement que les connaissances anatomiques à l'époque étaient, on va dire, assez limitées. Un peu l'équivalent de celle d'un étudiant en médecine en première année, vous voyez. D'autres examens ont eu lieu, notamment sur les viscères, dont un tout petit fragment à la chute des Bourbons en Italie, est allé rejoindre la France, et notamment la cathédrale Saint-Louis à Versailles, et on a pu se rendre compte que le roi de France avait de nombreux parasites, et notamment des parasites qu'il avait acquis lors de la 7e croisade, la croisade précédente, où il était resté en détention très très longtemps, au Proche-Orient, et là il avait attrapé une parasitose intestinale, et surtout, pardon, une parasitose vésicale au niveau de l'appareil urinaire, qu'on appelle la bilharziose urinaire, schistosomia hématobium de son petit nom. C'est pour ça que la tradition rapporte qu'il pissait rouge de temps en temps, qu'il urinait, on appelle ça une hématurie macroscopique. J'arrête avec les mots savants. D'autres fragments corporels ont été étudiés, notamment sa mandibule, dont l'authenticité a pu être établie. Elle est conservée à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Cette mandibule est très intéressante parce que elle présente des signes, on va dire, d'altération du tissu de soutien des dents de façon un peu diffuse, et également des signes d'une surinfection au niveau de 3 dents du côté droit. Quand on confronte ces données à la fois anatomiques et également ces données écrites, on se rend compte que le roi n'est pas mort du tout d'une peste, mais que la pestilence qui a été décrite pour lui correspond beaucoup plus à un scorbut, c'est-à-dire une carence en vitamine C, et que sur cette carence en vitamine C est vraisemblablement venue se greffer une infection dentaire qu'il a peut-être emporté. Le travail n'est pas fini, nous continuons toujours à travailler sur les viscères de ce roi, et on est en train de reconstituer pas à pas ce qu'on appelle le microbiome, c'est-à-dire l'ensemble des virus, bactéries, parasites et champignons qui composent l'intérieur des intestins, et on est en train de se rendre compte que certaines espèces sont pathologiques et ont pu être la cause de la mort du monarque. Résultats à venir et publication imminente dans une revue scientifique.
Alors pour qu'on comprenne bien comment vous procédez, vous avez parlé donc de cette mâchoire inférieure qui a été authentifiée. Comment procédez-vous pour vous assurer qu'il s'agit bien de la sienne, techniquement parlant ?
Pour identifier des restes humains historiques, il faut qu'on ait des arguments qui sont à la fois morphologiques et également des arguments de datation, des arguments qui sont ceux du sexe également, du sexe de l'individu, et puis des arguments qui peuvent être une anomalie particulière, une déformation, une malformation, un traumatisme correspondant à un individu. En l'occurrence, pour la mandibule de Saint-Louis, on a disposé d'une datation carbone 14, la morphologie également, qu'on a confronté, par exemple, avec une statue jugée par les historiens de l'art et par les historiens tout court comme particulièrement ressemblante et relativement réaliste vis-à-vis du roi. On a également confronté ça avec les données biologiques de l'individu, les pertes dentaires qu'il a pu avoir, le régime alimentaire de l'individu quand on a des restes de tartre dentaire. Donc beaucoup d'arguments qui rentrent en ligne de compte et qui nous permettent d'être à la fois sûrs et certains, soit que les restes sont authentiques, soit qu'ils ne le sont pas. Dans un grand nombre de cas, d'ailleurs, les restes ne sont pas authentiques. Mais évidemment, cela, on en parle moins. Nous, on décrit, on publie évidemment nos résultats, même quand ils sont négatifs, c'est toujours important pour la communauté des chercheurs. Mais bon, les médias se font moins l'écho de résultats négatifs que de résultats positifs. Quelque part, c'est un peu normal.
Oui, ça nous amène peut-être au rapport que nous avons à la mort et aux reliques. On a toujours, on a encore envie aujourd'hui que les reliques des anciens rois de France soient authentiques.
Oui, alors d'abord, le terme relique peut s'appliquer pour Saint-Louis, parce que c'est un roi saint. Maintenant, pour les autres, on va dire des restes, même si les rois sont des rois en France, des rois de droit divin, qui sont oints par le sacré, mais qui a en théorie une petite part de divinité en eux. Peu importe, ça ce sont des problématiques métaphysiques. On a envie de croire que ces restes historiques, oui en effet, sont authentiques, sont vrais, et qu'il y a une partie de l'individu dans ces restes-ci, ça n'est pas toujours vrai. Notamment au moment de la Révolution, au moment de la Restauration, quelques années plus tard, beaucoup de restes ont été présentés comme étant des restes de rois de France, issus de la profanation, ou de reines, ou de princes, issus de la profanation des tombeaux de la Basilique Saint-Denis en octobre 1780. L'étude scientifique montre que malheureusement, je ne dirais pas qu'il n'en est rien, mais qu'il n'en est pas grand-chose. Voilà, beaucoup de faux circulent. On a notamment travaillé sur un morceau de tissu qui avait été imbibé avec théoriquement du roi Louis XVI au moment de sa décapitation. C'est dans une petite gourde pyrogravé, qui est maintenant préservé dans une collection privée à Bologne. On a travaillé notamment avec un laboratoire de référence, pas français pour le coup, mais catalan, et on a pu montrer que malheureusement, sur le plan génétique, ce sang ne correspondait pas du tout au phénotype, c'est-à-dire à la présentation physique de Louis XVI, ni même à son pédigré géographique, c'est-à-dire chacun d'entre nous est porteur de gènes qui correspondent à leur ancestralité, c'est-à-dire une organisation géographique des gens qui nous ont précédés et dont on est porteur du capital génétique, et en l'occurrence, ça ne correspondait pas du tout à ce qu'on sait de Louis XVI. Donc, pour le coup, c'est un faux historique.
Oui, ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui encore, parce qu'on va passer sur le terrain de l'anthropologie, il y a une envie de croire, une envie d'intimité et de présence des morts illustres parmi nous. Même dans nos sociétés sécularisées, laïques, et parfois marquées par un certain présentéisme, une certaine amnésie, il y a le désir présent.
C'est une partie de l'histoire de France. Quand on est face à une pierre tombale, face à un tombeau ou face à des fragments de corps de rois, on est directement confronté à la réalité de ces personnages historiques. Toutes les études de paléopathologie, Saint-Louis, Louis XIII, Louis XIV, Napoléon et tous les autres qui ont été menés par notre équipe, mais j'insiste, la Fondation n'a pas pour vocation que d'aider notre équipe, bien au contraire, c'est toutes les équipes qui réalisent ce type d'études, c'est bien le but de la Fondation. Et bien toutes ces études biohistoriques, Richard Cœur de Lion, Diane de Poitiers, Henri IV, jusqu'à très récemment Adolf Hitler, et bien toutes ces études rendent beaucoup plus réel, beaucoup plus palpable, beaucoup plus sensible ces personnages historiques. À travers ces études scientifiques, on rend accessible l'histoire du monde, l'histoire de France, l'histoire de l'Europe. Et ça, c'est une véritable vocation politique, au sens grec du terme. Pas la politique politicienne, mais la politique qui est se saisir de la cité, et en l'occurrence de l'histoire de la cité. C'est en cela que ces études scientifiques sont vraiment... elles doivent interpeller le citoyen, et notamment les plus jeunes. On fait beaucoup d'interventions dans les classes, dès la primaire, mais également dans le secondaire, pour parler de ces personnages historiques, pour les rendre accessibles. Il faut bien comprendre que la science, quand on parle de médecine légale, quand on parle de microscopie, quand on parle également de parasites, de virus, de bactéries, d'épidémies, de radiographie également, eh bien c'est une façon totalement originale d'accéder à ces personnages de l'histoire de France.
Alors, je veux dire que c'est l'un des effets majeurs que l'on ressent à la lecture de votre ouvrage, c'est que ces personnages, effectivement, gagnent en chair, on pénètre leur intimité, leur misère, j'allais dire, on est presque parfois saisi de compassion, parce que ça permet aussi de mesurer les progrès qui ont été faits en termes de médecine, de traitement de la douleur.
C'est tout à votre honneur.
Ils ont vécu un martyr.
Certains ont vécu un martyr, oui, on pourrait peut-être faire plus de saints dans votre France. Anne d'Autriche, oui, Anne d'Autriche mériterait vraiment, oui, la pauvre Anne d'Autriche qui avait un cancer du sein majeur et qui a vraiment souffert, la pauvre. Ce qui est intéressant à travers le cas d'Anne d'Autriche, c'est que à l'époque, on considérait le cancer non pas comme une prolifération de cellules qui échappent à son rythme de renouvellement individuel. On n'avait pas cette connaissance moderne, mais on considérait que c'était une sorte d'animal parasitaire qui dévorait le corps, soit de l'intérieur, soit de l'extérieur, en fonction de la topographie du cancer. Et donc, du coup, on s'est pris à l'époque à nourrir ce cancer. C'est-à-dire que la plaie béante du cancer d'Anne d'Autriche, puisque c'était un cancer extériorisé, était nourrie chaque jour avec un peu de viande de veau, viande de cheval, viande de bœuf, de porc, etc., en essayant de trouver le mets que le cancer préférerait pour qu'il se nourrisse de cette viande apportée de l'extérieur plutôt que du propre corps d'Anne d'Autriche. On est vraiment dans les croyances de l'époque sur cette maladie. Malheureusement, le cancer a préféré Anne d'Autriche et elle a souffert, la pauvre, pendant de très très longs mois. Elle a fini par être amputée et ensuite le cancer a gagné le sein de l'autre côté. Elle a fait énormément de métastases ganglionnaires et elle a fini par mourir. Elle a tellement souffert de son vivant qu'elle a demandé à ne plus souffrir post-mortem, et à ce qu'on simplement on lui retire son cœur, mais que le reste du corps ne soit pas embaumé. Et c'est sous cette forme-là qu'elle a ensuite été déposée à la basilique Saint-Denis et son cœur au Val-de-Grâce.
Alors, du coup, ça nous mène vraiment de plein pied dans l'anthropologie, en l'occurrence l'anthropologie sur les rites occidentaux. C'est une autre chose très frappante en lisant l'ouvrage, c'est l'ensemble des rites funéraires. Bon là, en l'occurrence, ceux des aristocrates ou des familles royales, donc j'imagine que c'est particulier, mais toutefois, on a l'impression peut-être pompeuse, mais que finalement, nos ancêtres illustres ont presque davantage de correspondance avec l'ensemble des populations que vous décrivez dans votre ouvrage rituel, qu'avec nous-mêmes, membres de sociétés plus sécularisées. Est-ce que je me trompe ?
Non, votre parallèle est totalement légitime, notamment cette partition du corps des rois ou des puissants, c'est quelque chose qu'on ne pratique plus du tout maintenant. Alors, certaines pratiques, quand avec une urne funéraire, quand ils récupèrent les cendres, on peut ensuite répartir, même si ça n'est pas légal, mais je sais que ça se fait en pratique. Quand un père meurt, par exemple, et qu'il a trois enfants, eh bien, on va parfois répartir les cendres entre trois enfants, comme ça chacun a un tiers des cendres de son papa. C'est un peu. Dans les faits, c'est la même chose. Mais sur le plan métaphysique ou moral, ça n'a strictement rien à voir. Le roi fait une partition de son corps, post-mortem évidemment, pour faire à la fois un remerciement de tel ou tel individu qu'il a jugé méritant vis-à-vis de l'État en général, également pour remercier les institutions religieuses et du coup drainer par des visites presque touristiques ou presque à la recherche d'une bénédiction de la part de ce corps de roi, ça va enrichir évidemment par des donations telle ou telle congrégation religieuse. Troisième intérêt aussi de cette fragmentation du corps du roi, c'est une sorte de bornage territorial du domaine royal. Le roi va marquer par les fragments de son corps mort, et donc par ses multiples tombeaux, le fait que ce territoire appartient à la couronne royale de France. Ça, ça apparaît dès... on le voit par exemple avec Saint-Louis, qui va enterrer ses enfants à tel endroit, et puis demander des partitions de cadavres, même si lui établit à la basilique Saint-Denis une véritable nécropole royale, en faisant rapatrier quelques corps un peu éparpillés précédemment. En tout cas, cette pompe royale, elle varie énormément d'un individu à un autre, mais on a quelques éléments qui persistent d'une génération à l'autre, notamment cette partition, cette répartition du corps dans un triple but.
Alors, nous sortons d'un épisode qui est celui de l'épidémie de Covid-19, qui était décrite comme un retour du tragique, une résurgence de l'idée de mort dans la société alors qu'elle était mise plutôt de côté, et niée, ou de maladie même. Qu'en pensez-vous avec le recul historique qui est le vôtre, vous qui avez étudié les rites funéraires et le rapport à la mort et à la maladie au fil des siècles?
Cette période du Covid-19 elle a obligé à une modification des rituels funéraires. Les familles étaient tenues à distance de celui qui n'était pas encore un défunt, mais celui qui était en train de mourir, donc un agonisant. Et donc beaucoup de ces victimes sont mortes, uniquement accompagnées par le personnel soignant, dont ce n'est pas normalement la fonction. La famille doit également être présente, et le personnel soignant ne doit pas se substituer à la famille pour accompagner un défunt, quand certains ont pu l'être. Et puis la famille n'était pas là non plus tout le temps pour les funérailles. Certaines funérailles ont été retardées pour plusieurs semaines, parfois plusieurs mois. Certains rituels n'ont pas pu être accomplis, notamment celui du lavage du corps mort, c'est-à-dire la toilette funèbre, la toilette mortuaire, qui est particulièrement importante pour certaines religions du livre. Et puis également, comment faire son deuil quand on ne voit pas le mort? Certains défunts ont été escamotés, alors pas du tout... par médisance, mais pour des raisons sanitaires. Il ne fallait pas que le corps mort puisse contaminer la communauté des vivants. C'était évidemment pour faire le bien, pour le bien commun. Mais comment faire son deuil quand on n'est pas aux côtés de la personne au moment où elle est en train de mourir, quand on ne touche pas son cadavre mort, quand on ne le voit pas décédé dans son cercueil, et quand on ne peut même pas l'accompagner en terre? Voilà. Plusieurs semaines après, on apprend ça, ou on le vit, ou on est directement confronté en voyant un nom sur une pierre tombale, et c'est le seul moyen pour beaucoup de familles d'acter la mort, de rendre la mort réelle. Ça invite vraiment beaucoup à réinventer la mort. Je sais que beaucoup de familles, enfin, j'en ai parlé et j'ai travaillé sur ce sujet-là avec des représentants des religions juives, musulmanes, catholiques, protestantes et orthodoxes également, grecques-orthodoxes en l'occurrence, et ça oblige vraiment à repenser la mort, repenser les rituels de mort, s'adapter au maximum et accompagner la communauté des vivants, et même accompagner la communauté des morts, car si on y croit, certains morts dont les rituels n'ont pas pu s'accomplir complètement, eh bien, sont peut-être bloqués ou nécessitent en tout cas une aide de la part de la communauté des vivants pour franchir tous les obstacles jusqu'au lieu du dernier repos. Donc, voilà, l'adhésion à la croyance, pour les vivants et pour les morts, est totalement déséquilibrée par cette pandémie du Covid-19.
Et au-delà de la modification des rites durant la pandémie, que pensez-vous de l'évolution des rites funéraires en Occident et sous d'autres ères, l'époque contemporaine? Enfin, j'étais frappé quand même par la richesse des rites funéraires que vous décrivez dans votre ouvrage, ouvrage rituel donc, une bonne part de ceux-ci sont dédiés aux rites funéraires, et avec la simplicité presque expéditive des rites funéraires dans l'Occident contemporain.
Je suis pas certain que ça soit si expéditif que ça. Alors certes, on peut bâcler une messe de funérailles en 30 minutes, ça c'est certain, mais on peut aussi faire un rituel complet. Vous savez, les rituels, ils commencent déjà au moment où l'individu se prépare à mourir. Il ne faut pas voir le rituel de la mort une fois que la personne a rendu son dernier souffle, ou quand on se retrouve tous dans une église ou ailleurs, en tout cas dans un bâtiment funéraire, pardon, un bâtiment religieux, au moment des funérailles stricto sensu. L'accompagnement du mort, la préparation de la mort, il y a beaucoup de traités d'Ars Moriendi, le traité du bien mourir, qui sont toujours actifs maintenant et qui sont lus par de nombreuses congrégations religieuses ou de nombreux membres de communautés, pas simplement chrétiennes, également juives, musulmanes, bouddhistes, hindouistes ou autres. Donc la mort est vraiment un processus qui est long, les rituels sont également longs, et je ne dirais pas qu'ils sont simples en Occident. Je ne trouve pas, surtout qu'il y a beaucoup de processus de commémoration des funérailles, commémoration du mort, et puis il y a énormément de choses qui se passent dans les cimetières. On ne va pas assez dans les cimetières. Moi, c'est un de mes terrains anthropologiques de prédilection, j'ai grand plaisir à y emmener mes étudiants en médecine. Tous les ans, on fait un terrain pendant une journée entière dans un cimetière parisien, en l'occurrence, Montparnasse, le Père Lachaise, les Batignolles, et à chaque fois, je leur fais une lecture anthropologique d'un cimetière parisien. Je peux vous dire que ça fourmille de rituels. H24, même la nuit, il y a des rituels qui se passent, qui ne sont pas forcément très catholiques, sans jeu de mots, mais énormément de choses se passent. Enfin, il y a des rituels vaudous, par exemple, il y a des rituels du moins dit vaudou, ça ne correspond pas du tout au vaudou ni béninois ni haïtien, on va dire des rituels magico-religieux qui s'inspirent de l'imaginaire vaudou, voilà la réalité, il y a des rituels extrêmement multiples qui se déroulent, que ce soit sur le tombeau de personnages historiques, connus, notamment par des personnes qui n'ont absolument aucun lien familial avec, et puis que ce soit également sur la tombe d'anonymes. Prenez par exemple des rituels spirites qui se déroulent au Père Lachaise sur la tombe d'Allan Kardec. Je vous invite à y aller un jour, vous verrez, c'est particulièrement intéressant, et échanger avec cette communauté est d'un très grand intérêt.
Précisément, y a-t-il pas de la différence des points communs dans le rapport à la mort ou à la maladie, mais enfin, prenez le sujet qui est le plus illustrant, mais voilà, à travers la diversité des cultures et des manifestations, quel point commun voyez-vous dans ce rapport à ce drame commun à l'ensemble de l'espèce humaine?
Alors, oui, c'est un drame pour une grande partie, mais pas pour la totalité des civilisations. Il y avait un prêtre, je me souviens, qui avait dit un jour que c'était un scandale. La mort était un scandale. C'est-à-dire quelque chose qui est de l'ordre de l'intolérable pour la communauté des vivants. Alors, je ne sais pas s'il y a des points communs, parce qu'on aime bien réunir un peu ce qui est épars, mais on aime bien aussi montrer les spécificités de tel ou tel groupe humain. Une chose importante et qu'on retrouve quand même beaucoup, c'est l'idée que la communauté des vivants aime bien montrer son territoire, distancer son territoire de la communauté des morts. Les morts sont à un endroit et les vivants sont à un autre endroit. Parfois, la communauté des vivants aime la proximité avec le monde des morts, mais malgré tout, il y a un temps des vivants et un temps des morts. Cette distanciation ne se fait pas dans l'espace, elle se fait dans la temporalité, ou elle se fait dans l'idée de, on convoque le mort, on peut dormir à côté de lui sous la forme d'un crâne trophée, par exemple, qui est suspendu à tel ou tel endroit, mais Le mort ne doit pas intervenir n'importe quand dans la journée, c'est pendant la nuit, pendant les rêves qu'il va intervenir. Ou on va l'appeler, on va le solliciter à tel ou tel moment de l'année, telle fête ou tel moment de décroissance de la lune ou de croissance des récoltes, etc. Donc, il y a toujours cette idée que le mort ne peut pas être n'importe où. Le mort doit être soit à un endroit donné, soit à un moment donné, mais l'anarchie n'est pas possible. C'est pour ça qu'il y a des rituels. Les rituels sont là pour ne pas qu'on soit démunis, pour ne pas qu'on se pose un jour la question de « zut, il se produit telle chose, je ne sais pas quoi faire ». Les rituels sont là pour qu'il y ait de l'ordre plutôt que du chaos, pour qu'on sache exactement quel comportement adopter dans telle situation où l'anarchie ou le désordre pourrait survenir, notamment la mort, mais pas seulement la mort, le mariage, c'est-à-dire l'alliance entre un clan et un autre clan, par exemple des catastrophes naturelles, par exemple des élections, par exemple les récoltes, les semailles, les moissons, etc. Tout moment où il se produit quelque chose, un rituel est là pour qu'on sache exactement quoi faire. En fait, c'est une liberté qui est donnée par une obligation d'accomplir quelque chose qui est déjà écrit. Comme on sait quoi faire, et bien du coup, on est paradoxalement libre.
La plupart des rites que vous avez décrits sont des rites ancestraux, qui nous viennent du passé, qui sont perpétués, ce qui leur donne bien sûr une certaine force, peut-être sont même peut-ils accomplis parfois par certains tout en ayant perdu le sens, mais un rite peut avoir du sens en lui-même, après tout, et produire du sens en lui-même. En revanche, s'en crée-t-il de nouveaux qui ont un succès? En fait, je pose la question, mais je voudrais que vous me parliez des Saintes Marie de la Mer, car j'ai appris en lisant votre ouvrage, en fait, c'est beaucoup plus récent que j'imaginais. Le pèlerinage des Saintes Marie.
On crée des rituels. Quelques rituels ont été... Je ne vous entends plus, là.
Je ne vous entends pas.
D'accord, c'est pour ça que je vous entends plus. on crée des rituels. Par exemple, pendant l'épidémie de Covid-19, un rituel est apparu qui était d'ouvrir sa fenêtre à 20 heures pétantes et de taper dans les mains, parfois même prendre un objet de cuisine pour féliciter et congratuler d'abord la communauté des soignants et puis ensuite tous ceux qui continuaient à travailler et à servir la communauté, l'État, etc., pendant la pandémie et que tout le monde était confiné. Et spontanément, sans que quelqu'un dise « bon, maintenant, ça s'arrête », eh bien, à la levée du confinement, tout s'est arrêté subrepticement. Donc, voilà un rituel qui est apparu tout seul, sans que quelqu'un dise « faites-le », qui a duré et qui ensuite s'est arrêté tout seul. D'autres rituels, qui pour le coup sont un peu teintés de religion ou de métaphysique, sont apparus également récemment. Je pense au pèlerinage des Saintes Marie de la Mer, qui est une création extrêmement récente. Quelques pèlerinages avaient lieu avant, mais qui n'étaient pas consacrés à la communauté des gitans, mais c'est seulement dans le tournant du 19e et du début du 20e siècle que, véritablement, presque pour une vocation touristique, une vocation de mettre en avant une communauté jugée à l'époque avec plein de guillemets exotiques, dans un environnement caricatural provençal, eh bien on se met à créer ce pèlerinage avec les gardiens sur leurs chevaux, avec des gesticulations, des cris, etc., quasiment des phénomènes d'hystérie collective organisés autour du corps de la petite Sarah la Noire. Donc là, on est vraiment dans la création d'un rituel dont maintenant certains sont persuadés que c'est un rituel qui existe au moins depuis le Moyen-Âge et peut-être même avant. Il n'en est rien. Pour le coup, il n'en est rien. Néanmoins, c'est un rituel qui est très beau, très prenant, très intense. Et nul doute que ceux qui s'y rendent actuels s'y rendent avec une totale légitimité, d'abord, bien sûr, il ne s'agit surtout pas de le remettre en question, mais surtout une totale... comment se dire ? Ils y croient vraiment. Ils y vont avec une ferveur totale. Et je pense que cette ferveur, elle est loyale.
Écoutez, vous voyez on part sur l'exploration du passé, mais comme souvent, ça nous éclaire sur le présent. Finalement, l'avenir risque d'être rempli de rites. On pensait s'en être débarrassé, on pensait être devenu des êtres parfaitement rationnels, n'ayant pas besoin de secours du surnaturel.
Oh, mais la rationalité n'empêche pas l'existence des rites. L'un n'empêche pas l'autre.
Un autre type de rationalité.
Bah, c'est-à-dire que la science, on considère que la science peut expliquer beaucoup. Certains même ont considéré, avec le positivisme, avec le scientisme, que la science pouvait tout expliquer. C'est évidemment une vision caricaturale et excessive. La science peut expliquer beaucoup de choses, mais chaque réponse à une question amène généralement 10 nouvelles questions. Donc, on connaît de plus en plus de choses, mais on se pose dans le même temps de plus en plus de questions. Donc, c'est bien. Ça entretient notre curiosité quelque part, et j'en suis bien content.
Chaque nouvelle question induit une nouvelle discipline comme celle que vous développez, et chaque nouvelle discipline apportera de nouvelles questions, ce qui nous amène à penser qu'il y a une longue vie pour votre fondation.
Eh bien, je l'espère, et surtout j'espère en son utilité pour la communauté des chercheurs, et puis également pour le plaisir intellectuel du grand public. Voilà, il ne faut gâcher ni l'un ni l'autre.
Écoutez, nous lui souhaitons également longue vie et nous incitons nos auditeurs à poursuivre cette conversation en se plongeant dans vos ouvrages. Ils sont nombreux, on aurait pu parler aussi de celui que vous avez consacré aux zombies, non pas ceux de Walking Dead, mais ceux d'Haïti. Voilà, c'est du teasing, comme on ne dit pas à l'Académie française, mais ça vaut le coup de se plonger dans cet ouvrage-ci également.
Merci.
Donc les deux que je conseille, car... Ils illustrent très bien les deux facettes des travaux à mener dans la Fondation. D'une part, Autopsie de mort célèbre par Philippe Charlier et David Alliot, c'est chez Talendier, je crois.
Exact.
Et Rituel par Philippe Charlier aux éditions du CERF, avec d'ailleurs de très belles photos issues du fond du musée du Quai Branly, dans lequel vous exercez également. Oui. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Merci beaucoup.
Et une prochaine
fois,
pour nous présenter les travaux qui sont prévus.
Avec plaisir. Merci.
Merci beaucoup.